Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Nous glorifions ton nom et nous prions pour que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, et que cette parole puisse transformer nos cœurs et nos vies. Que, à l'écoute de ta parole, nous puissions décider, Seigneur, de nous engager avec toi et pour nous qui sommes engagés, que nous puissions davantage, Seigneur, te servir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Jean 3, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus discute avec un connaisseur de la loi, un docteur de la loi, un homme qui enseignait la loi au peuple. Et au cours de la discussion, Jésus lui dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus marque, montre l'amour de Dieu. Il dit, l'amour que Dieu a eu pour les humains a poussé Dieu à envoyer son Fils et il parlait de lui. Et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 17 où Jésus donne l'explication. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas de jugement. Il y aura un jugement un jour, puisque Dieu est bon, puisque Dieu est juste, puisque Dieu est correct. Et dans son amour, dans sa justice, il punira le mal un jour. Mais Jésus dit ici, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la parole du Seigneur. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Comme on a dit, le temps de jugement viendra pour ceux qui auront refusé d'accepter la parole de Dieu, pour ceux qui auront refusé le moyen du salut que Dieu a apporté, eux, ils seront jugés. Mais pour le moment, Jésus dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que son Fils vienne juger, parce que s'il venait juger, je pense que tous qui sommes ici, on ne sera pas sauvés. Mais Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Nous lisons Luc au chapitre 19, 1 à 10. Luc 19. Luc 19, 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Lazare, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà, Jésus s'invite chez Zachée, et au verset 7, nous lisons que que ceux qui étaient là, qui voyaient la scène, ils se disent, mais voilà lui qui se dit correct, lui qui se dit fils de Dieu, lui qui enseigne la loi, eh bien, il va manger chez un pécheur, chez un homme de mauvaise vie. Zachée était, même si ce n'est pas écrit ici, mais on peut imaginer que c'était un escroc, c'était un homme peut-être méchant, qui a fait du mal, qui a abusé de son pouvoir pour écraser les plus faibles, pour s'enrichir. Et les gens qui regardent, ils se disent, mais comment lui qui est bon peut aller loger, peut aller manger chez un homme qui est mauvais? Mais Jésus n'a pas tenu compte de cela, puisque, comme on a dit, l'objectif de Jésus en venant sur la terre, c'était de non de juger, mais de sauver. Le Fils de l'homme est venu, non pour juger, mais pour sauver. Et il dit ici au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà l'amour de Dieu pour les hommes. Un amour qui est inconditionnel, comme on a chanté tout à l'heure. L'amour de Dieu est tellement grand, si fort, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Et le même amour que Jésus a manifesté, Jésus veut que nous aussi nous puissions le manifester autour de nous. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est « Mise à part » ou alors « Sauvé pour être un canal de salut pour les autres. Sauvé, mis à part pour le salut de ceux qui sont autour de nous. » C'est cela. Si le Seigneur nous a laissés sur la terre, certes, c'est pour glorifier son nom, c'est pour chanter sa gloire, c'est pour le glorifier, mais c'est aussi pour que le monde sache qui est Dieu. Et le monde le saura, non pas parce que nous le proclamons, parce que nous disons « Jésus est bon, Jésus est vivant ». Il y aura ça, mais il n'y aura pas que ça. Le monde le saura lorsqu'on manifestera l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, aimez-vous aussi les uns les autres. Lorsque quelqu'un vient nous voir pour lui dire, maître, mais quel est le plus grand commandement? Avec la loi que Dieu nous a donnée, Jésus dit, tous les commandements se résument en une seule chose. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. C'est cela. L'amour que nous allons avoir autour de nous, c'est ça qui fera que Dieu va passer pour sauver ceux qui sont autour de nous. C'est ça. Et lorsqu'on on imagine cela, on pense à cela, on se dit, mais qui sommes-nous pour que Dieu nous utilise? Mais Dieu a choisi les choses dans sa souveraineté. On se rappelle lorsqu'il parle aux disciples dans Matthieu 28, 19, il leur dit, allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Prêcher aux hommes. Parlez de ce que je fais, mais aussi par l'amour que vous allez manifester, les hommes sauront que vous êtes véritablement de moi. Si les hommes n'ont pas expérimenté l'amour, humainement parlant, en voyant l'amour que vous allez manifester, ils reconnaîtront qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu d'amour. C'est cela. Dieu nous a mis à part, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions à notre tour être des canaux par lesquels il va passer pour sauver les autres. C'est cela. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait enlevé. On serait avec lui. Mais si nous restons sur la terre, c'est parce que Dieu veut passer par nous pour être des canaux. Dieu veut passer par nous pour sauver nos familles. Dieu veut passer par nous pour sauver les voisins. Dieu veut passer par nous pour sauver les collègues de travail. Mais bien souvent, nous nous arrêtons à notre propre sort. Voilà qu'on m'a mal parlé. Voilà qu'on m'a dit ceci. Voilà tel est trop méchant. Comme cette foule au verset 7. Il voyait Zachée. Il disait, mais voilà Jésus qui va manger chez un homme mauvais. Mais Jésus n'a pas tenu compte de cela. Puisque sa mission était claire. Sa mission, c'était de sauver les humains. Dieu aime les hommes. Et dans Jean 37, c'est écrit, a tant aimé les hommes. Adverbe de quantité. Beaucoup, il a beaucoup aimé les hommes, que son amour s'est exprimé en donnant son fils. C'est ça. Et la Bible dit dans Luc 6, 40, que tout disciple accompli sera comme son maître. Alors lorsqu'on nous dit ça, souvent on voit tout ce qui est lié à la gloire de Jésus. La sagesse lorsqu'il parle. Seigneur, je veux être comme toi. la connaissance de la parole. Seigneur, je veux être comme toi. La puissance. Mais être comme le Seigneur, c'est aussi accepter qu'on nous marche dessus. C'est aussi accepter l'injustice. C'est accepter qu'on nous calomnie. C'est accepter qu'on nous pointe aussi du doigt. Mais souvent, on dit, Seigneur, je veux être comme toi, puisque on voit le côté positif. Mais le disciple accompli, Jésus dit, et il dit dans 2 Timothée 3:12, que tout celui qui veut vivre pieusement, eh ben, il sera aussi persécuté comme moi je l'ai été. Il dit, si moi le bois vert, j'ai été traité comme ils m'ont traité, à comme la plus forte raison, vous le bois sec. Si moi, le Fils de Dieu, j'ai été traité comme ça, à comme la plus forte raison, nous. Dieu aime les hommes et il veut passer par nous pour sauver. Et l'amour que Jésus a manifesté envers Zachée, c'est cet amour que le Seigneur veut que nous puissions manifester aussi autour de nous. Nous allons prendre l'histoire d'une personne qui a reçu la mission du Seigneur, mais devant la méchanceté des hommes, de ses contemporains, cette mission a été difficile pour lui. Et il a même refusé même la volonté de Dieu, en quelque sorte. Mais il s'est repenti. Nous lisons Jonas au chapitre 3. Juste avant le livre de Michée, le livre de Jonas. Au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. Ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort, chapitre 4, verset 1er, à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté, qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur envoie Jonas, son serviteur, pour annoncer le jugement qui aurait lieu si le peuple refusait de se repentir à Ninive. Et Jonas entend l'ordre de Dieu et il décide, comme on a lu, d'aller à Tarsis, de changer de direction. Et dans son périple, dans son voyage, il y a une tempête qui s'élève et Jonas dit aux gens qui sont là, c'est moi le coupable, jetez-moi dans l'eau et la tempête s'arrêtera parce que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. Et finalement, Jonas va à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu. Et il parle, et nous avons lu, ce peuple décide de changer de voie. Il y a la repentance et ce peuple change de cœur. Et cela irrite Jonas et il dit à Dieu, il dit, voilà pourquoi j'ai résisté, puisque je te connais. Je sais que tu es tellement bon que tu allais pardonner à ce peuple s'il s'est repenti. En quelque sorte, je me suis déplacé pour rien. Je me suis déplacé pour rien. On voit la limite que l'homme peut avoir dans l'amour qu'il peut manifester envers les autres. Jonas était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui avait de l'amour pour Dieu, qui servait Dieu, qui connaissait Dieu aussi, parce que pour anticiper le pardon de Dieu, c'est que Jonas connaissait vraiment Dieu. Mais malgré le fait qu'il connaissait vraiment Dieu, le mauvais comportement des Ninivites, de ses habitants de Ninive, a fait que Jonas a fermé son cœur. La méchanceté de Ninive a fait que Jonas, finalement, a fermé son cœur. Comme on a dit, Jonas savait que Dieu est amour, Dieu aime, Dieu pardonne. Il le savait parce qu'il le dit, mais Jonas a aussi gardé le fait que Dieu est juste. Et lorsqu'il a annoncé le jugement de Dieu, il s'est arrêté sur le côté justice. Il s'est arrêté sur le côté méchanceté de Dieu. Il s'est peut-être dit, bon, comme ils sont mauvais, Dieu n'a qu'à les frapper. Puisqu'ils sont mauvais, eh ben, ils méritent cela. Et voilà que Jonas a oublié l'entièreté de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu est amour. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé Jésus. Et au verset 17, Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger, mais pour sauver. Mais dans sa nature qui est amour, comme il est bon, eh bien, il ne peut pas laisser le mal impuni. Et Jonas est resté là-dessus en se disant, puisqu'ils sont mauvais, eh bien, que Dieu les frappe. Eh bien, c'est ce qui peut nous arriver. Lorsque nous voyons la méchanceté autour de nous, lorsque nous voyons tout ce qui se passe, le piège, c'est de se dire, eh ben, ils méritent. Ils méritent ce qu'ils ont fait. C'est ça le piège. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et c'est le piège dans lequel Jonas est tombé. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jonas aimait Dieu. Jonas avait sa relation avec Dieu. Si Dieu l'a forcé à aller en envoyant même un poisson pour qu'il aille à sa destination, c'est parce que Dieu avait une relation avec Jonas. On ne connaît pas cette relation-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, ah ben, si un homme comme Jonas a désobéi, moi aussi je peux désobéir, Dieu va me rattraper. Non. Il avait sa relation avec Dieu. Mais l'enseignement qui est là, c'est que l'homme a des limites dans la bonté qu'il peut manifester, dans l'amour qu'il peut manifester, dans la patience qu'il peut manifester. Il a des limites. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour dire, Seigneur, mon cœur commence à durcir. Lorsque je vois un tel, lorsque je vois son visage, Seigneur, aide-moi. C'est là que Dieu intervient parce que Dieu est Dieu. Il faut bien qu'il y ait une différence entre nous et Dieu. Et souvent, lorsqu'on est dans cette situation-là, il y a l'orgueil, il y a la honte qui fait qu'on ne veut pas reconnaître notre état. Pour Jonas, c'était le mérite. Il s'est dit, bah, comme ils sont mauvais, eh bien, qu'ils n'ont qu'à mourir dans leur péché. Il arrive quelquefois lorsqu'on entend des nouvelles, des personnes, parfois même des hommes politiques. On sait que ce sont des gens qui sont mauvais. Et lorsqu'arrivent des mauvaises nouvelles, quelque part dans la chair, on se dit, ah, il a eu ce qu'il méritait. Mais cette attitude-là n'est pas l'amour de Dieu. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois. Je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon, je dis non, Seigneur, cette personne-là a aussi besoin de ton salut. Même si la personne a fait tant de mal aux gens, cette personne a besoin de ton salut. Et parfois, c'est ce qui nous manque. Or, sans l'amour, comment les gens autour de nous seront sauvés? Comment les gens seront sauvés? Le fait que Jonas ait fermé son cœur, eh bien, il a retardé la mission de Dieu. Mais ce texte nous montre aussi la puissance de la parole de Dieu lorsqu'il a annoncé la parole. Donc Dieu avait déjà préparé les cœurs de ces gens-là. Donc lorsque Dieu envoie Jonas, c'est comme si Dieu avait déjà fait le travail. Et Jonas avait simplement à obéir. Voyons aussi les choses de cette façon-là. Ne nous arrêtons pas sur la méchanceté. Croyons que Dieu a déjà fait le travail. Jésus dit, regardez la moisson, elle est là. Elle est déjà là. Mais quelquefois, c'est nous qui sommes un blocage. On dit, mais Seigneur, je prie pour tel membre de famille. Je prie pour un tel. Je prie pour un tel. La situation ne change pas. Parfois, la situation s'empire encore. Et quand la situation s'empire, faisant comme Jésus dans Jean 13, il est écrit que lorsqu'il sentait son heure arriver, il mit le comble à son amour. Il a mis son amour au maximum. Puisque c'est ça le piège. Tu es bon. En retour, tu as le mal, eh ben, tu te lasses. Tu te dis, bon, là, c'est bon, là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Non, là, on tombe dans les pièges de l'ennemi. On tombe dans le piège de l'ennemi. La Bible dit que lorsque nous étions encore mauvais, Jésus-Christ est mort pour nous. Il n'a pas exigé aucune garantie en échange. Il n'a pas dit, bon, mon Père, on fait un pacte. Il faut que les gens soient bons pour que je sois sûr que ma mort à la croix sera efficace. Non. Romains 5, 8, nous lisons. Romains 5. Où on peut commencer même au verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. À peine mourrait-on pour des hommes justes. Donc, en quelque sorte, ça vaut encore la peine de mourir pour quelqu'un de bon parce qu'il est bon. Mais quelqu'un de mauvais, lui manifester de l'amour, c'est difficile. C'est très difficile. C'est facile lorsque on a affaire à quelqu'un qui est correct, on lui fait du bien, il nous rend le bien en retour. C'est plus facile. En quelque sorte, la personne nous aide. Mais non, la Bible dit dans Matthieu 5, pardon, soyez parfait comme votre Père est parfait. Lui, il fait luire sur tout le monde, son soleil. Il fait profiter à tous les humains, les bons et les mauvais. Il dit, soyez donc parfait comme votre Père est parfait. Et cette perfection-là, c'est dans l'amour envers les méchants, envers les mauvais. Lorsqu'on a l'amour, l'amour va nous pousser à prier, à dire Seigneur, je prie pour le salut d'un tel. Seigneur, agis pour telle ou telle personne. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Mais quelquefois, à cause de ce que nous voyons, eh bien, on peut fermer notre cœur. Et lorsqu'on ferme notre cœur, eh bien, on ne joue plus le rôle que Dieu veut que nous puissions jouer. Comme on a dit, ce que Jésus-Christ a fait, la mission qu'il a fait, Jésus nous l'a donné aussi dans Matthieu 28. Il a dit, maintenant c'est à vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il l'a dit dans Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Que les gens voient. Et les gens verront ça, non pas par les belles paroles. Les belles paroles, c'est bien. Mais les gens verront ça par l'amour que nous allons manifester, par la douceur, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, que votre douceur soit connue de tous. C'est en manifestant cela que on attire l'action de Dieu. Comme on a vu avec l'histoire de Jonas. Jonas a juste parlé. Et il est allé s'asseoir pour attendre le jugement. Or, Dieu avait déjà commencé son travail. Il avait déjà commencé son travail. C'est cela. Alors acceptons, comme on a dit, le Seigneur nous a mis à part pour sauver. Quand je dis sauver, ce n'est pas nous qui sauvons. C'est pour être des canaux par lesquels Dieu va passer pour sauver. Et non des canaux de jugement. Et non des canaux de jugement. Ça nous arrive même parfois dans la tête, il dit, mais parle à telle personne, une autre pensée te dit, mais je lui ai déjà parlé, mais en plus, il entend la parole de Dieu, mais il ne change même pas. Non, ça, ce sont des attitudes de jugement. Quand je dis jugement, c'est-à-dire des attitudes où on condamne la personne, on dit, mais non, mais lui, il ne changera pas. Il est toujours comme ça. Non, ce n'est pas cette attitude-là. Mais c'est l'attitude que Jonas a eue. Il s'est dit, bon, il est toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça, les gens de Ninive. Ils sont méchants. Eh bien, ils ne changeront pas. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Il est écrit, bénissez, ne maudissez pas. Parfois, par nos pensées, par nos attitudes, nous maudissons des gens. Et on se justifie en disant, mais oui, mais voilà ce que tel m'a fait. Voilà ce que tel m'a fait. La Bible dit le jugement appartient à Dieu. Le jugement n'est pas pour nous. Lorsque nous, on commence à juger, on empêche, non seulement on sort de la volonté de Dieu, mais on empêche Dieu d'exercer son jugement qui est juste. Puisqu'il dira, ben, comme toi tu as déjà puni la personne, ben, moi je ne fais plus rien. Mais maintenant, toi tu auras un problème, moi j'aurai un problème avec Dieu. Puisqu'au lieu de bénir, j'ai été mauvais. Ce n'est pas cela. Dieu veut que nous puissions être des canaux par lesquels il va passer pour sauver. Et comme on a dit, cela implique parfois le fait de mourir. Cela implique parfois un sacrifice. C'est un sacrifice. Un sacrifice pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Comme je disais, d'accepter l'injustice, d'accepter les calomnies, les critiques, d'accepter les accusations infondées, ou même, peut-être fondées même. Mais d'accepter cela en s'attendant à ce que Dieu touche la personne pour qu'il se rende compte que son agissement n'est pas bon et pour que Dieu puisse toucher son cœur. C'est ça l'attitude que Dieu veut. Et quand c'est comme ça, c'est donnant-donnant. L'autre critique, ah bah, il va voir de quel bois je me chauffe. Non, là on ferme le cœur. On ferme le cœur. Dieu agira peut-être pour toucher cette personne, mais en passant par une autre personne. Mais ça serait dommage. Dieu veut passer par nous. Il est écrit, nous lisons Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6, il est écrit. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc c'est ces gens qui parlent, et qui parlent de Jésus-Christ en disant qu'aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, nous sommes un royaume. Nous qui étions autrefois des gens, des païens. Dieu nous a rassemblés. La mission que Dieu avait donnée autrefois à Israël. Israël avait été mise à part pour que, par sa vie, les autres nations puissent voir que le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Mais finalement, à cause de la désobéissance, Israël, le plan que Dieu avait avec Israël, le peuple entier, a échoué. Dieu a commencé à choisir des personnes individuellement. Il a choisi une tribu. Il a choisi, dans cette tribu, il a choisi une famille. Les Lévites, la famille d'Aaron. Et ces gens-là étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui apaisaient la colère de Dieu par des sacrifices. Les gens venaient, faisaient des sacrifices et eux, ils étaient là comme intermédiaires entre le peuple et Dieu pour le pardon du peuple. C'était ça le rôle qu'ils avaient. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et le but, le rôle du sacrificateur, c'est de plaider la cause. C'est l'intercesseur en quelque sorte. C'est celui qui apaise la colère. C'est celui qui apaise la colère de Dieu. On se rappelle d'Abraham lorsqu'il fait cette prière par rapport à Sodome et Gomorre. Il dit, mais s'il se trouve 50 justes, s'il se trouve 40, s'il se trouve 30, Dieu apaise sa colère à cause de la prière des justes. Et c'est ça le rôle que nous avons. Alors gardons ça dans notre cœur. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors ne soyons pas rapides pour juger. Ne soyons pas rapides pour cataloguer les personnes, comme on a vu au verset 7 de Luc 19 en disant « Mais cet homme est un pécheur !» Jésus n'a pas regardé à cela. On se rappelle de l'histoire de cette femme dans Jean chapitre 8 qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Les gens, les pharisiens, les connaisseurs de la loi étaient là pour accuser, pointer du doigt la femme. Jésus dit « Oui, c'est vrai, ce que vous dites est écrit. » Maintenant, vous qui voulez faire la justice, assurez-vous que vous êtes aussi juste. Et là, un à un, ils sont partis, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Pourtant, cette femme avait bien péché. Mais Jésus, à ce moment-là, était là pour dire à cette femme, moi non plus, je ne te pardonne pas. Je ne te condamne pas. Tu as mal fait. Maintenant, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est cela. Dieu veut qu'on ait ce cœur-là de sacrificateur, d'intercesseur. D'avoir le souci que les gens soient sauvés autour de nous. Lorsqu'on a cet amour-là, ça va régler beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes autour de nous. Beaucoup de problèmes même dans les foyers, dans les couples. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Lorsqu'on a l'attitude d'amour, lorsqu'on cherche le salut de l'autre, on passe au-dessus de cela. On passe au-dessus. On passe au-dessus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, il dit, bien-aimés, recherchez les choses les meilleures. Il dit, ayez la paix, ayez l'amour, ayez la bienveillance, et voilà les choses vertueuses. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est cela. C'est cela. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Et lorsqu'on a compris ça, ça règle beaucoup de choses. Lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est méchant en face de nous, lorsque la colère monte, on dit « Seigneur, cette personne a besoin de ton salut. Cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. » C'est ce que Dieu dit à Jonas. Il dit « Mais Jonas, mais comment tu peux t'irriter envers des hommes qui sont ignorants ?» Il dit « Ils ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Ils sont comme des bêtes. » Donc quand toi tu te fâches contre eux, c'est que tu n'as pas compris qui je suis en parlant de Dieu. Puisqu'ils sont ignorants, ils sont comme des animaux. Et c'est l'attitude qu'on doit aussi avoir devant les païens. Se dire, ils sont dans les ténèbres. Ils voient sans voir, ils entendent sans entendre. Tout ce qui compte, c'est les plaisirs. C'est les plaisirs, c'est tout ce qui compte. Mais malheureusement, dans ces plaisirs, il y en a qui meurent. Comme on a entendu dernièrement l'accident qu'il y a eu à Rouen. 4 jeunes morts sur le coup. On a envie même de dire un accident bête. Celui qui était au volant, c'est quelqu'un qui est proche de la famille de Mylène et de Maxime. Ils ont grandi ensemble, 34 ans. Et aujourd'hui, il y a un rapport qui est arrivé où les médecins légistes disent qu'il avait 2 grammes ou 3 grammes d'alcool, plus du cannabis. Voilà, bêtement. Et beaucoup sont dans cette situation. Et parfois, on rencontre leur route, on se fâche, on est en voiture, on voit quelqu'un, on s'énerve. Non. Comprenons que ce sont des gens qui ne savent discerner leur droite de leur gauche. Comme on le dit souvent, quelqu'un qui est dans le péché, qui ne connaît pas Dieu, alors toi, chrétien, tu vas encore avoir de la colère envers lui. Mais ça ne sert à rien. Il est déjà sous la colère de Dieu. Il est déjà sous la colère de Dieu. Alors toi, chrétien, tu vas encore haïr une telle personne. Ce n'est pas lui rendre un service. Lorsqu'on comprend ça, on se dit, non, Seigneur, moi, je vais choisir d'aimer. Voilà. Seigneur, moi, peu importe ce qui m'a été fait, ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu, Seigneur, moi, je veux choisir d'aimer. Voilà. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Et comme on a dit, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, mais il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu. Cela est possible. Donc, c'est une question de volonté. Quand on dit sacrifice, c'est que ça fait souffrir la chair. Et comme on le dit souvent, lorsque quelque chose fait souffrir la chair, ça montre aussi qu'il y a une volonté de vouloir obéir à la parole de Dieu. Quand on souffre, eh ben, ça montre qu'il y a quand même une volonté. C'est comme je parlais avec une personne qui est liée à l'alcool. Et il me dit, mais rien que d'y penser, je pense à ma souffrance. Je dis, oui, la souffrance est là. Parce que si Dieu permettait que tu sois délivré sans souffrir, eh ben, c'est trop facile. La souffrance est aussi là pour montrer qu'il y a une volonté. Il y a un choix qu'on a fait. Et ce choix-là, ça se montre aussi dans la souffrance physique. Il y a des symptômes, il y a tout ça lié au manque. Et quand on accepte ça, ça montre qu'on a fait vraiment le choix d'aller jusqu'au bout. Et Dieu est aussi fidèle. Et il va nous soutenir. C'est cela. C'est cela. Et nous, lorsque nous souffrons aussi comme ça, eh ben, ça montre qu'on a fait le choix, on veut du Seigneur. On dit non, Seigneur, je refuse que ma chair cède à la méchanceté. Je refuse que ma chair se réjouisse de la souffrance de celui qui est mauvais. Je refuse cela. Moi, ce que je veux, c'est bénir. Être un lien, un canal par lequel tu vas passer pour sauver. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est cela. Mais quelquefois, nous oublions ça. Nous restons sur le jugement. Nous restons sur le fait que nous sommes corrects, l'autre est mauvais. C'est pas normal. Nous restons sur le fait, et nous allons lire l'histoire d'une personne qui était dans ce cas-là, qui a oublié l'amour qu'il recevait. Il voyait tout simplement la méchanceté de son frère. En disant à son père, « Mais père, moi j'étais correct. Ton fils regarde ce qu'il a fait. » Le père dit, « Mais mon fils, l'amour que je manifeste là maintenant pour ton frère, c'est le même amour que j'ai pour toi. » Mais il ne s'en est pas rendu compte. C'est pour lui dire que parfois, nous, chrétiens, on s'habitue avec l'amour de Dieu, on s'habitue avec Dieu et on devient, donc on s'habitue avec Dieu, l'amour de Dieu, et on devient on devient dur avec les autres. Mais lorsqu'on réalise que tous les jours, si Dieu manifeste son amour envers moi, lorsqu'on le réalise, eh ben, ça nous permet aussi d'être indulgent, de se dire, ah, moi aussi, je suis mauvais, Dieu m'a pardonné. Moi aussi, je suis incorrect. Mais Dieu n'a pas tenu compte. Moi aussi, je viens de mal parler, mais Dieu vient de me pardonner. Et lorsqu'on se rappelle de ça, eh ben, ça peut nous aider aussi. Nous lisons Luc au chapitre 15. Luc 15. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, celui pour qui tu as tué le veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà l'histoire de ce père qui nous montre l'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Et l'amour, c'est aussi le fait d'accepter parfois qu'il y ait des frictions. Mais on accepte cela. Mais malgré ces frictions qu'on a là, parce que là, il y a eu une séparation. Mais malgré cette séparation, le Père espérait quand même le retour du Fils. Et nous, c'est la même chose. Même s'il peut y avoir des situations qui font qu'à cause de la vérité, eh ben on prend des décisions, on prend des positions, que ce soit avec nos familles, nos parents, nos proches. Mais dans nos cœurs, gardons l'attitude du retour à Dieu. Gardons l'attitude d'intercesseur. Soyons le canal par lequel Dieu va passer pour ramener cette personne. Ne fermons pas la porte. Ne fermons pas la porte. Le père a laissé partir son fils. Il a dit, mon fils, tu veux partir? Pars. Mais malgré tout, le père attendait que le fils revienne. Il attendait, malgré tout, toutes les expériences qu'il aurait pu connaître, il espérait que le fils soit sauvé. Voilà, c'est cela. Et c'est l'attitude que nous devons aussi avoir. Lorsqu'on a fait ce qu'on avait à faire, ne cherchons pas à forcer. Il a laissé faire, le fils, il a dit, pars, tu veux partir, pars. Mais malgré tout, il a gardé l'amour pour son enfant. Et lorsque celui-ci est revenu, il s'est réjoui. Il était content. Il a fait une fête. Je pense que le fils lui-même devait être gêné, dérangé de voir cet amour. Mais c'est ça l'amour que Dieu veut que nous puissions manifester aussi. Comme il est écrit dans Matthieu 5, « Heureux les débonnaires ». Les débonnaires, ce sont des gens qui sont bons en excès. À l'excès, pardon. Qui sont bons, tellement bons, que leur bonté est exagérée, on va dire. Certains diront la naïveté. C'est ça les débonnaires. Le père n'a pas cherché à savoir où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Non, il s'est réjoui, tout simplement, que le fils soit revenu. Mais voyons l'attitude de l'autre. Il dit, mais c'est pas normal. Moi, j'étais correct. Moi aussi, je voulais m'amuser. Je voulais aussi faire la fête. Je me suis retenu. Peut-être voulait-il plaire à son père. Mais en faisant ainsi, il a oublié quelque chose de très important. C'est que son père l'aimait. Ce que son père l'aimait. Et le jour où il a vu l'attitude de son père envers son petit frère, qui a été mauvais en quelque sorte, il a été surpris de réaliser que finalement, papa nous aime. Et c'est ce qui nous arrive aussi en tant que chrétiens. On s'habitue avec la vie chrétienne, la vie du Seigneur. Parfois, il arrive qu'on jeûne même pour le salut des gens. Et dans le cœur, on se dit, mais Seigneur, je jeûne, je me prive de nourriture. Et l'autre, il est toujours dans son péché, dans sa... Mais non! C'était ça l'attitude de ce fils. Il a oublié que s'il était chez son père entretenu, c'est parce que son père l'aimait. On se dit, mais je suis toujours correct. On se souvient d'Azaph qui dit, mais en vain, je me suis gardé pur. En vain. Dieu lui dit, non, tu n'as pas compris. Que les mauvais qui progressent, qui prospèrent, un jour, la colère de Dieu va s'abattre. Et là, quand Azaph a compris, il s'est dit, ah oui, finalement, je suis bien dans le camp de Dieu, Dieu m'aime. Il a dit, j'étais insensé, j'étais ignorant. Et c'est l'attitude de notre fils aîné qui est venu en disant, mais c'est pas normal. Mais Seigneur, on jeûne. Seigneur, on évangélise. On nous ferme la porte dessus. Seigneur, il fait froid. Il faut annoncer l'évangile. Seigneur, on fait. Seigneur. Non. Lorsqu'on réagit comme ça, c'est parce qu'on a oublié l'amour de Dieu. Et de temps en temps, Dieu nous fait des piqûres de rappel. Parfois par des conversions, parfois par des témoignages. Voilà pourquoi c'est important de partager aussi des témoignages. En écoutant le témoignage d'une personne, on peut aussi se rendre compte de « Ah, je ne savais pas que je venais aussi de si loin. » Par les histoires que les gens nous racontent. Il y a des gens qui ont échappé à la mort miraculeusement. Et au travers de tout ça, on réalise finalement, si Dieu l'a fait pour toi, peut-être que moi, mon témoignage n'est pas extraordinaire au sens où je n'ai pas parcouru les enfers, mais au travers de ton témoignage, je vois que Dieu est bon parce que malgré tout, il t'a sauvé. Et lorsqu'on voit ce que Dieu fait chez l'autre, ça nous rappelle aussi, ça nous calme aussi par rapport à l'amour de Dieu. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement que Dieu a voulu donner au travers de ce grand frère. Dieu a voulu lui montrer, le Père a voulu lui montrer que mon attitude, s'il fallait recommencer, je recommencerai même aussi avec toi. Je ferai la même chose. Il n'y a pas de différence. Et l'attitude du Père, c'est cette attitude-là que Dieu veut que nous ayons. Alors la question c'est, est-ce que nous attendons le retour de ceux qui sont partis. Quand je dis qu'ils sont partis, ce n'est pas physiquement, c'est parfois dans notre cœur, parfois dans nos pensées, on a fermé le cœur. Est-ce que nous espérons leur retour? Est-ce que nous espérons? Comme je témoigne souvent, un ami très proche avec qui on a grandi lorsqu'on était jeune. Et tous les jours, j'envoyais des pensées. Et un jour, il me dit, bon, il me répondait en me disant, moi, je suis musulman. Moi, je suis, pour me décourager, pour dire, tout ce que tu m'envoies, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis musulman. Bon, je sais que c'est faux. Mais il vit sa vie sans Dieu. Et un jour, il me dit, bon, arrête, c'est fini. Arrête, c'est fini. Et il a changé de numéro. Je me suis dit, ah, comment des simples textos, si tu ne veux pas les lire, tu effaces. Mais des simples textos. Et ça m'a fait un coup. Mais malgré tout, je dis, Seigneur, comme l'enfant prodigue, il est parti, mais j'espère, comme le Père, le retour un jour. Donc là, actuellement, l'épisode, c'est qu'il est parti. Mais moi, je suis à la porte. Je guette. En espérant un jour que le Seigneur le ramène. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et Dieu ne veut pas qu'on ferme le cœur. On se dise, bon, comme il ne veut pas, ah bah, il n'a qu'à assumer. Non, ce n'est pas ça l'attitude que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on ait l'attitude du Père qui est toujours là, à guetter, à attendre. Pas l'attitude du frère qui dit, moi, je suis correct, Seigneur, je suis chrétien, je suis jeune. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. Regarde l'autre qui fait, non. Si c'est ça, prions pour dire, Seigneur, peut-être que j'ai mal compris les choses. Je me suis habitué à ton amour. C'est ça, lorsqu'on s'habitue à quelque chose, ben, ça devient normal. On ne voit même plus le goût, on ne voit même plus l'importance. puisqu'on s'est habitué. Mais prenons un peu de recul. Lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que finalement, Dieu est bon. On se rend compte que finalement, ceux qui vivent sans Dieu, eh ben, c'est la souffrance. Ceux qui vivent sans Dieu n'ont aucune espérance, ne serait-ce que l'espérance. Ils ne l'ont pas. L'espérance du lendemain, ils vivent comme des animaux le jour. Parce qu'il suffit que le médecin dise, « Ah, les résultats ne sont pas bons, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. » Et lorsqu'on voit tout ça autour de nous, ayons l'intelligence de ramener tout à Dieu, de se dire, « Seigneur, je glorifie ton nom de ce que je te connais aujourd'hui. Je bénis ton nom. De ce que tu m'as aimé alors que j'étais mauvais, Seigneur, je bénis ton nom. » Et en retour, en conséquence, puisque tu m'as aimé sans rien exiger, eh ben moi aussi je veux choisir d'aimer aussi autour de moi. Voilà, c'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Que le Seigneur nous aide et nous amène à cette dimension. Si nous avions fermé les cœurs par rapport à nos familles, les enfants, peut-être le mari même, les amis, les collègues, le Seigneur veut que nous puissions ouvrir les cœurs afin qu'il agisse. Nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les intercesseurs, nous sommes là pour apaiser la colère de Dieu et non pour l'amplifier. Nous sommes là non pour juger, mais pour sauver. Pour dire, Seigneur, ce que moi j'ai vécu de telle personne m'a fait souffrir, mais ce que toi tu as souffert à la croix a été plus grand. Alors je choisis de rester dans l'amour. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, non pour juger, mais pour sauver. Et Seigneur, cela n'est possible que avec l'aide de ton esprit dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, vois combien nous sommes limités dans l'amour que nous pouvons manifester. Comme nous l'avons dit, parfois il est plus facile d'aimer des gens qui sont corrects envers nous. Il est plus facile d'aimer des gens qui nous rendent l'appareil. Mais Seigneur, nous choisissons aujourd'hui d'aimer même ceux qui sont durs avec nous, Seigneur. Même ceux qui se moquent de toi. Nous choisissons de les aimer, Seigneur. Nous voulons jouer notre rôle, Seigneur, comme il est écrit dans Apocalypse 1, 6, d'intercesseur, de sacrificateur, Seigneur. Le sacrificateur, c'est celui qui implorait le pardon pour le peuple, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Là où nos cœurs étaient fermés, Seigneur, nous voulons les ouvrir, Seigneur. Là où nous avions du mal à pardonner, Seigneur, donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Là où nous avions dit des paroles de jugement, de condamnation, Seigneur, nous voulons mettre des paroles de bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous voyons la joie de ce Père en voyant son Fils revenir. Et c'est cette joie que nous voulons aussi éprouver lorsque nos proches, lorsque tous ceux qui sont autour de nous viendront à toi. Il est écrit, Seigneur, dans 1 Timothée 2, Seigneur 4, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans ton fonctionnement, tu as choisi de nous faire participer aussi à ce travail. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides dans le nom de Jésus. Que notre amour grandisse, Seigneur. Que notre amour grandisse. Que notre amour pour les âmes grandisse. Sans l'amour, nous ne pouvons pas prier, Seigneur. Sans l'amour, nous ne pouvons pas, Seigneur, bénir ceux qui nous font du mal. Sans l'amour, nous ne pouvons pas, Seigneur, manifester ta paix, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à grandir dans ton amour. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs que tu libères, que tu délivres aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.